France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La question était sur toutes les lèvres depuis que Volodymyr Zelensky avait mis au défi son homologue russe de le rencontrer à Istanbul. Finalement, Vladimir Poutine a choisi de snober les pourparlers de paix avec l'Ukraine. Dès lors, que peut-on encore attendre de ces discussions? Nous serons en Turquie dès le début du journal, pays décidément incontournable puisqu'au même moment se tiendra une réunion informelle de l'OTAN. On s'interrogera également sur la stratégie du géant pharmaceutique français Sanofi d'investir massivement aux États-Unis. On constatera par ailleurs qu'aucun progrès récent n'a été enregistré pour les personnes en situation de handicap, et ce malgré les quelques avancées trompeuses durant les JO. Enfin, au lendemain de l'audition de François Bayrou devant la commission d'enquête de l'Assemblée, on se demandera avec notre invité quelles conditions ont pu favoriser la violence au sein de l'établissement catholique Notre-Dame de Bétarame. Véritable opportunité diplomatique ou simple illusionnisme vaguement tactique? A priori, la deuxième réponse était donc la bonne, même si des pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens sur l'issue de la guerre, une première depuis le printemps 2022, se tiendront bel et bien aujourd'hui à Istanbul. Vladimir Poutine, qui avait pourtant lui-même appelé à l'organisation de ces discussions, n'a donc pas jugé opportun de se rendre sur place. Alors sans doute que la proposition de dernière minute, en forme évidemment de défi de la part de Volodymyr Zelensky, de dialoguer en personne avec lui, a achevé de le convaincre. Pourquoi? Parce qu'au fond, participer à une telle rencontre aurait d'abord et surtout signifié aux yeux du maître du Kremlin céder à l'initiative de son homologue et ennemi ukrainien. Quoi qu'il en soit, voilà qui devrait en partie lever le voile sur les véritables intentions de Moscou quant à sa prétendue volonté de négocier la fin de la guerre. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Istanbul. Alors, Volodymyr Zelensky est lui en Turquie. On ne sait pas encore d'ailleurs si le président ukrainien acceptera ou non de discuter avec un autre responsable russe que son homologue direct. En revanche, il doit s'entretenir avec le président turc pour se dire quoi? Qu'est-ce que Ankara est susceptible d'offrir à Kiev pour avancer sur le chemin de la paix?
Eh bien, déjà avec cette réception au palais présidentiel, ce déjeuner de travail, Recep Tayyip Erdogan montre à son homologue ukrainien qu'il compte, qu'il est un interlocuteur incontournable, n'en déplaise à Moscou. Côté ukrainien, Volodymyr Zelensky, lui, en se déplaçant à Ankara, à quelques encablures d'Istanbul, entend faire la démonstration que l'Ukraine est sérieuse dans ses efforts de paix. Il avait dit qu'il viendrait à Ankara, prêt à se rendre à Istanbul, si Vladimir Poutine s'y montrait, ce qui n'est d'évidence pas d'actualité. Le président Erdogan, lui, entend aussi réaffirmer que son pays, qui se targue de dialoguer aussi avec la Russie, veut avancer vers une paix durable en Ukraine. Il souhaite rester sur la photo en tant que médiateur préféré dans ce dossier. Il rêve d'arracher un accord ici en Turquie. Recep Tayyip Erdogan, qui a des atouts à faire valoir, il parle aux deux présidents. La Turquie avait, on s'en souvient, facilité l'accord sur les céréales ukrainiennes avant que Moscou ne s'en retire. La Turquie compte dans cette région de la mer Noire. Elle en contrôle les accès. Le président Erdogan a d'ailleurs fermé les détroits aux navires de guerre russes dès le début du conflit. Mais il se heurte lui aussi à l'inflexibilité du Kremlin. Il reçoit son homologue ukrainien avant les pourparlers d'Istanbul. On est toujours dans le flou ici, mais ces discussions seraient remises à cet après-midi. Aucune précision sur l'heure pour l'instant. Actuellement, seuls les journalistes font le pied de grue devant le palais de Dolmabahçe sur les rives du Bosphore. Il y a foule d'ailleurs, quelques 200 journalistes, mais aucune délégation en vue.
Merci Marie-Pierre Véraud. Alors dans ce bal des faux-semblants et en l'absence de Vladimir Poutine, Donald Trump ne se rendra pas en Turquie comme il en avait émis l'idée. En revanche, et après que le président américain eut lui-même admis récemment se faire probablement balader par son homologue russe, peut-être que cette séquence permettra de ressouder un front au sein duquel Moscou pensait avoir réussi à semer la zizanie entre les États-Unis, l'Ukraine et l'Europe. Plusieurs responsables américains ont d'ores et déjà évoqué d'éventuelles sanctions financière contre Moscou. De son côté, Marco Rubio, le secrétaire d'État, est arrivé ce matin à Antalya, toujours en Turquie, où doit se tenir en parallèle une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN et où le dossier ukrainien, Nathaniel Charbonnier, sera là encore au cœur des échanges.
Nous sommes ce matin en Turquie et l'Ukraine a tenu sa parole. Volodymyr Zelensky est présent. C'est avec ces mots que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a commencé la journée à Antalya, histoire de rappeler qu'il y a dans ce conflit ceux qui jouent le jeu, comme les Ukrainiens et les Occidentaux, et ceux qui ne jouent pas, comme le président russe, Vladimir Poutine, qui va observer les négociations à la jumelle depuis Moscou. Pour les États-Unis, c'est Marco Rubio qui a fait le déplacement à cette réunion informelle de l'OTAN. Le secrétaire d'État américain attend des progrès, lui aussi, et rapidement si possible. L'objectif, parvenir à une paix juste, explique-t-il. Et si cela n'était pas le cas, États-Unis et Europe disposent d'une série de sanctions prêtes à être adoptées afin de faire plier Moscou. Sanctions financières et sanctions visant les acheteurs du pétrole russe avec une menace d'augmenter de 500% leurs droits de douane. L'Ukraine au cœur des débats de l'OTAN, mais pas seulement. Il sera aussi question d'argent avec un débat sur le montant consacré par les États à leur défense. Aujourd'hui, la tendance est de 2% du PIB. Les États-Unis aimeraient que les membres de l'organisation dépensent 5% de leur produit intérieur brut.
Elle n'est plus qu'un vaste tombeau.
Et pourtant, la bande de Gaza continue d'être pilonnée inlassablement par l'armée israélienne. Hier, la défense civile a recensé au moins 80 Palestiniens tués dans des bombardements et encore 34 supplémentaires ce matin, d'où l'alerte lancée par Médecins Sans Frontières qui, dans un communiqué, juge que la politique israélienne vise aujourd'hui à créer des conditions d'une catastrophe humanitaire délibérée, ainsi qu'à, je cite, « éradiquer la population de Gaza ». Déjà fêté en Arabie Saoudite et au Qatar, c'est par les Émirats Arabes Unis que Donald Trump conclura aujourd'hui sa tournée dans le Golfe. Abu Dhabi devrait lui offrir à son tour un accueil plein de pompe, ce à quoi le président américain s'est montré jusqu'à présent extrêmement sensible et pour cause, puisque cette petite visite chez les monarchies pétrolières et gazières aura été ponctuée de spectaculaires annonces économiques, dont l'enveloppe totale, aussi faramineuse que difficilement vérifiable sur le long terme, pourrait générer selon lui jusqu'à 4000 milliards de dollars. Et s'agissant toujours de cet appétit pour l'optimisme commercial, voilà qu'on apprend que le géant français Sanofi, dont la moitié des ventes sont américaines, a lui annoncé son intention d'investir au moins 20 milliards de dollars aux États-Unis d'ici à 2030. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors, ça n'est pas véritablement une surprise, puisque, à l'instar du groupe tricolore, d'autres grands noms de la pharmacie avaient déjà pris la même initiative, avec un double objectif, d'ailleurs, Camille, non seulement atténuer, bien sûr, les risques de droits de douane, mais aussi rester compétitif sur le marché américain, en l'occurrence, le plus important au monde pour le secteur pharmaceutique.
Oui, et d'ailleurs, Sanofi, vous l'avez dit, a sa moitié de la moitié de ses ventes sur le marché américain, alors que seulement 25% de sa production y est localisée. Il y a donc une logique à investir pour fabriquer les médicaments là où ils sont consommés. Ça fait d'ailleurs des années que le groupe pharmaceutique français opère un rééquilibrage de ses activités, à la fois de production mais aussi de recherche-développement, de l'Europe vers l'Amérique. Ces 18 milliards d'euros d'investissement sont d'ailleurs la somme de projets pour la plupart déjà connus, qui datent d'avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pas une surprise donc pour Fabien Mallet, coordinateur de la CGT chez Sanofi France.
Depuis des années, Sanofi est largement subventionné, que ce soit en France ou dans le reste de l'Europe, pour s'implanter ou rester. Sauf que ce qu'on voit, nous, depuis 2019, c'est une baisse quand même assez conséquente des emplois en Europe, une redirection pour la recherche vers les États-Unis, alors qu'il y a le crédit impôt recherche, par exemple, en France. On a un peu l'impression aujourd'hui que l'argent public européen, finalement, finance les implantations aux US.
Et voilà qui porte au passage un coup à la politique d'attractivité chère à Emmanuel Macron et à la Commission européenne. Il y a un mois, d'ailleurs, les 32 patrons des principaux groupes pharmaceutiques mondiaux avaient envoyé une lettre à Ursula von der Leyen pour poser leurs conditions au maintien de leurs activités en Europe, augmenter le prix des médicaments, réduire les normes et mieux protéger la propriété industrielle des labos. À présent, la plupart de ces groupes annoncent des investissements aux États-Unis, mais certains aussi hésitent, à l'image du géant suisse de l'oncologie, Roche, qui voulait investir 45 milliards d'euros en Amérique ces 5 prochaines années, mais qui pourrait revenir sur sa décision après que Donald Trump a lancé ce lundi un grand plan pour forcer les Big Pharma à réduire le coût de leurs médicaments sur ordonnance sur le marché américain.
Merci Camille Maniard.
Midi passé de 39 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
François Bayrou a-t-il menti hier soir devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale? Le Premier ministre a passé plus de 5 heures à répondre aux questions sur le scandale des violences physiques et sexuelles au collège-lycée Notre-Dame de Bétarame. Une affaire qui le touche personnellement, tout d'abord parce que plus plusieurs de ses enfants y ont été scolarisés, dont sa fille aînée qui récemment a avoué faire partie des très nombreuses victimes, et ensuite parce que cet établissement catholique béarnais, où son épouse a elle-même enseigné le catéchisme, se situe en plein cœur de son fief des Pyrénées-Atlantiques. Alors sous serment, le Premier ministre a maintenu qu'il n'avait jamais couvert de pratique quelle qu'elle soit, qu'il n'avait pas eu d'informations privilégiées, qu'il n'était pas resté sans rien faire lorsqu'il a découvert les affaires et qu'il n'était jamais intervenu. L'audition a été particulièrement longue, souvent tendue. Il faut dire qu'il s'agissait là pour le chef du gouvernement de répondre après des mois de petites phrases maladroites. Et c'est ainsi notamment que François Bayrou n'a pas hésité à remettre constamment en cause les méthodes de l'un des rapporteurs de la commission, l'insoumis, Paul Vannier. Or, ce matin, Rosalie Lafarge, celui-ci a été on ne peut plus clair. Selon lui, ces 5h30 d'échange permettent d'établir que François Bayrou a menti.
Il le reconnaît 30 ans après des faits, la mémoire peut tromper, mais à aucun moment François Bayrou n'admet avoir menti.
Il a menti.
Le rapporteur insoumis de la commission, Paul Vannier.
François Bayrou a reconnu hier avoir menti dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en faisant devant la commission l'enquête varier très profondément, très notablement, sa version de toute une série de faits. C'est un fait, je crois, très grave.
Sans être avare de critiques à propos de l'attitude du Premier ministre, l'autre rapporteur, la macroniste Violette Spielboot, ne tire, elle, pas les mêmes conclusions de ces échanges.
Nous avons eu une audition de 5h30 qui lui a permis de répondre à toutes les questions et je constate qu'il ne s'est pas dérobé. Le Premier ministre, hier soir, a répondu sous serment qu'il n'avait jamais menti, qu'il y avait des imprécisions dans ses souvenirs et je le crois.
Au-delà d'éventuels mensonges passés, ce que va tenter de déterminer maintenant la commission d'enquête, c'est si François Bayrou a menti hier soir sous serment, donc s'il s'est rendu coupable de parjure, la présidente socialiste de la commission, Fatia Kelouachi.
Je crois qu'il est quand même beaucoup trop tôt. Nous devons relire les procès-verbaux de l'audition, nous devons revisionner et nous devons prendre le temps de comparer aussi ce qui a été dit par le Premier ministre à la lumière de ce qu'a dit le juge Mirande, le gendarme Hontan et Françoise Gulling. On en tirera les conclusions qu'il faut en tirer, mais en temps voulu.
Et ces conclusions peuvent être lourdes. Le parjure est un délit. Le code pénal prévoit jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, sans parler des conséquences politiques qui découleraient d'une telle culpabilité.
Voilà, et pour continuer d'évoquer donc cette commission d'enquête sur le contrôle et la prévention des violences dans les établissements scolaires publics et privés, invite aujourd'hui la rédaction Éric Debardieu, professeur d'université émérite en sciences de l'éducation à l'université de Créteil, par ailleurs auteur d'un ouvrage intitulé « Zéro pointé, une histoire politique de la violence à l'école » publié cette année aux éditions Les Liens qui Libèrent. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Hier soir, le porte-parole du collectif de victimes de Notre-Dame de Bétarame, Alain Esquer, a de nouveau déclaré son refus de résumer l'affaire Bétarame à une affaire Bayrou. Pour autant, le caractère éminemment politique de cette audition du Premier ministre tenait aussi à ce qu'elle devait permettre d'éclairer au fond le rôle des représentants politiques dans la chaîne des responsabilités qui ont permis la perpétuation de violences dans l'établissement scolaire de Bétarame. Diriez-vous que ça a été le cas ?
Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec les victimes qui souhaitent que ce ne soit pas l'affaire Bayrou, hein, pour dire les choses comme elles sont. J'ai moi-même écouté pendant 5h30, ce qui était assez long, donc les déclarations du ministre. J'en suis pas sorti totalement persuadé non plus, mais effectivement, il y a une chose avec laquelle je suis d'accord, c'est que les responsabilités sont extrêmement partagées. Ce sont des responsabilités qui sont à la fois politique, mais aussi très clairement idéologique et globale. La manière dont on met des enfants dans un internat comme, tu vas rester droit, tu vas être un enfant bien éduqué et qui en fait autorise quelque part cette violence, me semble extrêmement problématique.
Effectivement, hier, en rappelant le placement à Bétarame, que le placement à Bétarame était parfois brandi comme une menace par certains parents, François Bayrou a semblé attester de la fonction spécifique, au fond, que la violence occupait dans cet établissement catholique, et peut-être d'ailleurs dans quelques autres similaires.
Écoutez, il y a d'abord une chose qu'il faut bien dire. Je suis désolé, mais c'était pas ce qu'on en dit, c'est-à-dire une période, on va dire passée, où il y aurait eu une espèce de bienveillance pour ce qui est le châtiment corporel, par exemple. On verra peut-être après les liens entre châtiment corporel et violence sexuelle. Non, je suis désolé, mais les années 90, même déjà les années 80, étaient des années où largement le châtiement corporel était à la fois démonétisé et critiqué, mais n'existait plus beaucoup dans les établissements scolaires, hein, ou même plus récemment, dans les années 2000, où moi j'ai moi-même fait des enquêtes donc dites de victimation, donc très fréquentes. Je les ai commencées en 91 dans la région bordelaise, pour tout vous dire. Montraient que en moyenne, si ça existait encore, c'était quelque chose qui était surtout pas systématique. C'était 3-4% des élèves qui déclaraient, qui déclarent encore d'ailleurs, avoir été frappés par un enseignant. Donc c'est pas aussi clair que ça. C'était une autre époque. Non, c'est pas vrai.
François Bayrou a notamment été interrogé sur la fameuse gifle qu'il avait donnée à un enfant lors d'un déplacement officiel à Strasbourg. C'était en 2002. Le Premier ministre a affirmé que ce geste n'était pas une claque violente, mais une tape de père de famille. Comment comprendre cette distinction ? Est-ce qu'il faut y voir le signe de ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires ont encore, malgré tout, une forte prise aujourd'hui dans la société ?
Oui, mais je crois que là, le ministre, sans le vouloir, nous livre une clé essentielle. C'est la clé du patriarcat. C'est la clé du bon père de famille. C'est la clé de la tape éducative. Et c'est en fait quelque chose que la recherche a démontré et continue à démontrer depuis longtemps, donc qui est un lien très très fort entre la violence dite éducative et en réalité la violence des élèves eux-mêmes. Je voudrais rappeler simplement un chiffre qui est très très parlant. Il y a une enquête qui a été menée, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus lourd, auprès de 80 pays, suivant leur perméabilité à la violence éducative ordinaire, et en particulier à la fessée, par exemple, ou à la gifle. Bon, et cette démonstration a été faite, mais c'est extrêmement solide, que plus on est perméable, plus on autorise cette violence éducative ordinaire, plus les élèves eux-mêmes sont violents, plus la délinquance existe. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est quelque part la grande faille anthropologique où l'enfant, c'est une espèce de petit animal à redresser. Et ça, je pense que c'est assez grave.
Les échanges de l'audition d'hier dessinent dans l'ensemble une rupture entre les violences donc dites éducatives et puis les cas de violences sexuelles qui relèvent de la justice. Est-ce que cette distinction ne risque pas, selon vous, d'empêcher peut-être de penser correctement le phénomène auquel était confronté Betaram ?
Écoutez, oui, vous avez tout à fait raison. Je pense là aussi que c'est assez démontré. Le lien. Alors, le lien n'est pas une fatalité. Je ne vais pas dire que dès qu'il y a une brutalité, il y aura violence sexuelle. Mais on reste quand même dans cette espèce de lien vers la soumission, y compris la soumission la plus totale, la plus terrible, qui va être la soumission sexuelle. Et il faut pas oublier une chose, que là, derrière tout ça, les victimes peuvent être aussi bien, et pas simplement à Betaram, bien sûr, où c'est particulier, des garçons que des filles, parce que c'est d'abord la soumission de l'ordre, mais aussi soumission sexuelle. C'est effectivement quelque chose de très délicat, mais qui a été renforcé, malgré tout, par le caractère très particulier, il faut bien le dire, d'une certaine manière de concevoir l'enseignement catholique et l'institution catholique. Je suis pas du tout personnellement anticlérical, c'est pas du tout mon sujet ni mon problème, et c'est pas la foi que j'attaque. Mais il faut bien dire que dans une institution close sur elle-même, où les dirigeants sont des prêtres, des hommes qui, du coup, forcément, considèrent les femmes comme des êtres moindres. Elles ne peuvent pas être prêtres, elles ne peuvent pas être dirigeantes à ce niveau-là. Et y compris dans la direction de conscience, il y a là, évidemment, un terreau plus favorable qu'ailleurs.
Et on terminera par ces mots. Merci Éric Debarbieux, professeur d'université émérite en sciences de l'éducation à l'université de Créteil, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Plus d'un millier de personnes en situation de handicap doivent converger d'ici une heure vers la place de la République à Paris.
Oui, un rassemblement citoyen à l'appel de l'Association des paralysés de France pour exiger que l'accessibilité soit enfin une réalité, car si quelques avancées ont été constatées, notamment depuis les Jeux Olympiques, dans les faits, la loi du 11 février 2005 n'est toujours pas appliquée, 20 ans donc après son adoption. Je vous propose d'écouter Marc Vérov, il est le vice-président de l'APF France Handicap, il répond à Tara Schlegel.
Nous faisons cette manifestation pour fêter le non-anniversaire des 20 ans de la loi du 11 février 2005. Et on n'a pas eu les résultats qu'on escomptait. Pourquoi ? Parce que par volonté politique, on ne nous a pas écoutés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même la déléguée interministérielle de l'accessibilité l'a dit elle-même, il n'y a que 30% des bâtiments publics qui sont accessibles, il n'y a que 50% des ERP, établissements recevant du public, qui sont accessibles. Je prends un cas d'un restaurant à Nantes, un des plus grands restaurants de Nantes, où les toilettes sont encore au sous-sol. On nous envoie à 600 mètres dans un hôtel pour aller aux toilettes. C'est inadmissible. L'école, il y a un établissement scolaire sur 5 qui est accessible aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est obligé d'envoyer des enfants qui sont en situation de handicap à 30 km de chez eux et les départements ne veulent plus payer les taxis pour ces enfants, parce qu'en plus, il n'y a pas de transport pour ces enfants. Le transport public est interdit pour les enfants en situation de handicap. Donc, on se marche un petit peu sur la tête. Pas d'école, pas de formation, pas d'emploi. Mais ce n'est pas que pour nous. On se bat, on est des militants, mais pas que pour nous, pour l'avenir également.
Marc Véran, donc vice-président de l'APF France Handicap, il répondait à Tara Schlegel. Enfin, on l'a appris ce matin, figure de l'audiovisuel pendant plus de 40 ans, Daniel Bilalian, ex-présentateur des JT d'Antenne 2, puis France 2 et ancien patron du service des sports de France Télévisions, est décédé hier. Il était âgé de 78 ans. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Le soleil devrait largement l'emporter, même si quelques averses orageuses seront encore possibles sur le Pays Basque et le Piémont Pyrénéen. Quant aux températures, elles sont comprises entre 13 et 24 degrés, c'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.